Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de The Podcast. Aujourd'hui, je suis encore en compagnie de Stomy, me lâche pas, je peux pas faire ça solo, il est toujours là. Salut Stomy.
Un vrai morpion, salut à tous.
Aujourd'hui, comme toujours, on va parler jeux vidéo, séries et peut-être comics si on a le temps, parce que je pense que l'épisode sera un peu plus long vu que le programme est assez chargé niveau jeux vidéo, hein, c'est la période, on va pas se mentir. L'approche de Noël fait qu'il y a pas mal de jeux vidéo qui sortent, et même cette année exceptionnelle, des nouvelles consoles. Si vous n'êtes pas au courant, la PlayStation 5 et la Xbox Series X sortent. Alors, déjà, Stomy, je sais que tu as précommandé la PlayStation 5, mais que c'est un peu galère, parce qu'on sait tous qu'en fait, au final, avoir la PlayStation 5, ça va être le Graal, quoi. Ça va être très compliqué de l'avoir Day One. Les stocks sont très faibles. Ça s'annonce une petite guerre. Moi, j'ai eu la chance, je l'ai reçu via PlayStation France. Merci, bisous. Il y a quelques jours, donc une semaine avant la sortie officielle en France, donc durant la sortie officielle au Japon, aux États-Unis, etc. Mais toi, je sais que tu l'as précommandé, mais t'es pas encore sûr de l'avoir finalement, Day One.
Ah bah, c'est même sûr que je l'aurai pas, parce que je suis passé par mon magasin Gamecash Brive, un bisou à eux. On a chacun nos amis, et les stocks, même pour eux, sont très très faibles. Je suis pourtant, le patron est un pote, et je crois qu'ils en ont reçu. Ils vont en recevoir une ou deux, donc forcément, bah, ils se les gardent pour eux-mêmes, hein, forcément, pour pouvoir tester et jouer eux-mêmes, ce qui est logique. Mais bon, Sony, j'ai vu qu'ils annonçaient un réassort de PlayStation 5 pour la sortie quand même du 19, et sera même disponible à partir de 13h sur Amazon, et un réassort pour juste avant Noël. Donc on croise les doigts et puis on va bien voir.
Bon, ça devrait le faire de toute façon. Je vais essayer de me battre aussi de mon côté pour te choper une console, que ce soit sur l'un ou sur l'autre site. On va s'arranger, on va trouver ça. Mais effectivement, c'est un peu dommage. Alors effectivement, il y a plusieurs excuses et on peut les comprendre. Hein, là, il y a le Covid qui a foiré un peu plein de choses, je pense. Mais c'est vrai que pour le gamer et pour le joueur passionné, c'est un peu compliqué de ne pas avoir la console Day One, de l'avoir réservée plusieurs mois à l'avance et pour au final ne pas être sûr de l'avoir Day One. C'est un peu, je pense que ça peut être un peu rageant et un peu frustrant en fait. Là on parle de la PlayStation 5, mais moi j'ai eu le cas avec la Xbox Series X et je pense que c'est exactement le même cas de ton côté. On était très très chaud pour acheter la Xbox Series X, surtout avec le Xbox All Access qui permettait, oui, d'avoir un paiement en 24 fois. Donc en fait la console ne revenait pas très cher, quoi. C'était une quarantaine d'euros de mémoire par mois.
Ouais, 38 exactement, c'est ça.
Ouais, et ça incluait le Game Pass, Ultimate et tout, avec le EA Play et compagnie. Enfin, il y avait de quoi jouer, il y avait de quoi s'amuser. Ça permettait franchement un financement très tranquillou, quoi. Ça faisait pas mal au portefeuille et ça permettait surtout d'avoir la console. Et moi, ce système avait créé une petite hype en fait. J'étais vraiment emballé par ce système et du coup, j'étais chaud pour acheter la console alors qu'au départ, j'étais pas le plus emballé par la console. Parce que j'ai toujours eu ma préférence pour PlayStation, pour les jeux vidéo, hein, pas pour autre chose. C'est jeux vidéo d'abord. Et là, j'étais chaud d'acheter la Xbox Series X, surtout grâce, bah, justement, à ce paiement en 24 fois, là. Mais, mauvaise nouvelle, une fois de plus, il n'y a pas de stock. Donc pas de stock, oui, pas de possibilité de faire ce paiement en 24 fois. Donc ni toi, Stomy, ni moi avons eu la possibilité, finalement, d'acheter. Pourtant, j'ai été au taquet, j'étais le jour J, j'étais sur plein de sites, hein, même s'il n'y a que Micromania qui fait pour l'instant ce système.
Et la FNAC.
La FNAC le faisait, mais le faisait si les boutiques étaient ouvertes. Donc c'est un peu compliqué. Comme les boutiques ne sont plus ouvertes, la FNAC le faisait plus. Et même ça, ça a été un bordel, quoi. Enfin, ça a été annoncé genre une semaine avant, trois jours avant, t'as Micromania qui annonce qu'au final, le Xbox All Access, ça va être un peu compliqué. Il faut avoir précommandé la console, avoir demandé une livraison en boutique. Pas chez toi, parce que si c'est chez toi, bah, le Xbox All Access, c'est mort. Tout ça, enfin, fallait réunir tellement de conditions pour avoir le truc. J'ai vu plein de personnes sur Twitter ne pas avoir eu la possibilité de prendre ce paiement en 24 fois. Et c'est dommage parce que, bah, on revient toujours sur la même chose, hein, mais c'est frustrant. Tu t'étais tenté, au final, tu ne l'as pas. Franchement, ça fait chier. Et franchement, moi, je trouve que c'est un moyen de paiement vraiment cool, quoi. Bah, alors, je suis pas pour les microcrédits, tout ce que vous voulez. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Faites attention à vous, démerdez-vous bien, quoi. Mais je trouvais le principe vachement cool, quoi. Pour un mec qui voulait pas claquer 500 balles le jour J, dépenser 40 euros par mois, franchement, ça passait bien, quoi.
Bah, clairement, c'est... même moi, ça m'avait décidé, vu mon échec pour la PlayStation 5, de me rabattre, entre guillemets, se rabattre sur la série X. D'ailleurs, pour l'instant, je suis toujours sur cette série X, à voir, parce que je sais que j'aurai la PS5 aussi, qui arrivera à la maison derrière. J'aurai les deux consoles, et puis ça permettra surtout au blog de pouvoir partager aux utilisateurs et aux gamers notre avis sur différents jeux, parce que je pense que Microsoft va un peu corriger l'erreur de la série console d'avant où il n'y avait pratiquement aucune exclue. Enfin bref, on ne va pas relancer le débat là-dessus parce qu'il y a encore les fanboys qui vont encore s'énerver inutilement. Mais ouais, ce côté 38 balles par mois était très intéressant, surtout que tu avais voilà, le Xbox Pass en plus, et c'était ça la grosse plus-value de ce 24 fois. Parce que sinon, ouais, tu peux prendre un 24
Game Pass inclus, Xbox Live inclus, donc en fait, tu avais un forfait tout en un, quoi. Ouais. C'était pas mal, ça permettait de jouer à des anciennes exclusivités, à des anciens jeux, et comme le Game Pass inclut beaucoup beaucoup de jeux, on va pas se mentir que c'était vachement cool, quoi. Enfin moi, le principe pour moi était vraiment très très bon, et franchement j'étais chaud, quoi. C'est dommage parce que c'est con, parce que là à l'heure actuelle j'aurais eu les deux consoles, quoi. J'aurais été très content, j'aurais pu tester plein de jeux. Et au final,
c'est toujours faisable. Hein. Tu peux aller sur le site de Micromania. Alors, pour l'instant, la console est indisponible, mais tu peux toujours le faire en ligne maintenant sur Micromania.
Ah oui, non, de toute façon, je pense que ce système-là va rester un petit moment. Ce ne sera pas uniquement au lancement de la.
Sur la série S, tu peux le faire encore actuellement. Tu peux toujours le prendre.
La série S, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Voilà.
Mais donc, ça sera disponible une fois que la console va ressortir. Ça, on va pas.
Oui, non, je pense que le système va rester un petit moment. Après, je pense pas qu'il va rester à vitam aeternam, par contre. Tu vois, je le vois bien, genre les 6 premiers mois ou la première année.
J'en sais rien parce que c'est un côté. Regarde, ça nous attire, nous, joueurs de PlayStation, de prendre cette console. Et je pense que c'est le but de Microsoft, vu l'échec cuisant de leur dernière console. Leur, avec un S, hein, bien évidemment, console aussi. C'est clairement le but. Donc je pense que c'est une offre qui va rester.
On verra. On verra bien, sur l'avenir, on nous le dira. Alors, on va changer de cap. On va parler d'abord d'un jeu vidéo, puis après, je reviendrai un peu sur mes premières impressions sur la PlayStation 5. Tu vas nous donner ton avis, et moi je vais pouvoir vous donner un peu le mien, même si j'ai joué beaucoup moins que Stomy sur Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla, donc c'est la suite, non, je la fais à chaque fois, FIFA 21 c'est la suite de FIFA 20. Non, Assassin's Creed Valhalla, donc c'est la nouvelle grosse licence Assassin's Creed, une licence tellement connue, quoi. C'est vraiment, j'ai fait une émission hier, je leur fais coucou, c'était très cool, sur la licence. En fait, c'est une licence qui a quand même 13 ans, si je dis pas de bêtises. 14 ans,
ouais.
Peut-être, ouais. Licence lancée en même temps que la PlayStation 3, donc on est quand même à la PlayStation 5, donc il y a eu deux générations entre-temps. Moi, pour moi, c'est le premier jeu auquel j'ai joué sur PlayStation 3, donc pour moi, c'était vraiment un énorme coup de cœur. Moi, de toute façon, Assassin's Creed, ça a toujours été une licence que j'adore de A à Z. C'est vraiment une licence que j'aime beaucoup, mais qui possède aussi beaucoup de défauts et qui possède aussi beaucoup de déceptions. Alors, on va pas refaire la genèse de toute la licence, mais il y a eu des hauts, il y a eu des bas, on va pas se mentir. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses. Toi, Stomy, est-ce que tu as vraiment fait toutes les licences? Est-ce que tu as vraiment fait tous les épisodes?
Alors, j'ai presque fait tous les épisodes. Le 3, mais, si je ne me dis pas de bêtises, le Black Flag avec les bateaux, ça m'a saoulé. Donc, j'ai pas été jusqu'au bout.
Ça, c'est c'était pas le, seul à bateaux,
le,
c'est
le gameplay horrible de combat de bateaux, etc. Donc, j'ai pas fait le jeu. J'ai pas fait celui d'après, du coup, parce que je crois qu'il y avait toujours des bateaux et ça me saoulait. Et petit à petit, ils ont retiré les guerres de bateaux petit à petit. Et mon grand retour où j'ai torché le jeu, mais vraiment presque à 100%, c'était Origin.
Ok. Donc, en mettant Origin, c'est vraiment, je pense, c'est un coup de cœur pour énormément de joueurs parce que. Reviens à quelque chose de plus ouvert. En fait, ce qui était fort dans Assassin's Creed le premier, c'était que c'était un monde très très ouvert. Oui. Alors tu te faisais des longues balades, parfois c'était un peu chiant, c'était l'un des gros défauts du premier, mais en même temps c'est le premier, il fallait se lancer. Origin, c'est un peu pareil, c'est un monde hyper ouvert. Là, c'est un univers que je pense beaucoup beaucoup de monde aime. L'univers de l'Égypte ancienne comme ça, c'est vraiment un univers qui est vraiment plaisant pour beaucoup de monde.
Surtout
avec les pyramides, que j'ai pas vu en vrai, mais que j'étais pas loin. C'est un troll entre nous, ça. C'était visuellement vraiment beau. Le moteur graphique avait un petit gap par rapport au précédent épisode, et tu le sentais, tu le voyais. Il y avait la nouveauté du RPG sur Origin.
Mais léger.
Moi, je déteste le RPG. Mais comme tu dis, c'était léger, c'était bien incorporé, c'était bien pensé, et c'est pour le coup, enfin on avait une nouveauté significative dans un Assassin's Creed. Le problème des Assassin's Creed au fur et à mesure du temps, c'est que, à part nous envoyer un petit grappin ou une connerie comme ça de temps en temps, on n'avait pas de grosses, grosses nouveautés. Et du coup, c'était un peu lassant et un peu dommage. Là, dans Assassin's Creed Origins, on avait beaucoup de choses positives en plus. Moi, j'ai pas fait l'Odyssée, et je me demande pourquoi j'ai pas fait l'Odyssée, parce que c'est vraiment une époque aussi qui peut me plaire, et je pense que j'irai bientôt sur Odyssée.
Alors, t'as pas fait Odyssée, parce que Thomas, c'est lui qui avait fait le, enfin, Voltixes, pardon, avait fait le test sur, pour le blog, et moi aussi, on a été deux dessus. Thomas a ragé, a même rage quitte complètement le jeu, par rapport au côté RPG qui était beaucoup plus développé.
Ah ouais. Et c'est vrai que pour le côté RPG, ça peut me freiner, voilà. Aussi. C'était pour ça que j'étais pas.
Toutes les erreurs d'Odyssée, on va dire toutes, non, mais les grosses erreurs du côté RPG d'Odyssée ont été gommées pour Valhalla. Et on retrouve un origine sur Assassin's Creed Valhalla. D'ailleurs, j'aurais même pu changer mon titre de mon test au lieu de marquer de faire une référence à Odyssée. J'aurais pu faire plutôt un clin d'œil sur un retour sur les origines qui aurait été vraiment un bon clin d'œil parce que au bout de 40 heures de jeu, j'en suis là. Je prends vraiment mon temps parce que je dévore le jeu malgré tous les bugs, les crashs console.
T'en as eu pas mal, hein. On peut le dire, t'en as eu pas mal.
J'en ai envoyé 3 ou 4 photos, je crois, là.
Ouais, ça commence à être. La liste commence à être longue.
Ça crache, voilà. Écran bleu à la Windows sur la PlayStation, c'est toujours agréable. Voilà, sans parler des bugs de collision, le personnage qui reste bloqué dans une porte, il ne peut plus bouger alors que tu peux faire pause, tu peux revenir au menu, mais tu es obligé de quitter le jeu pour relancer.
Ouais, ou de lancer ta dernière sauvegarde, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est des bugs rageants qui, je pense.
On en parlera un peu plus tard. Donne-nous plutôt ton avis vraiment sur le. Alors, on va pas spoiler le scénario. Non. Tu peux nous le décrire en peut-être en deux lignes. Mais donne-nous ton avis plutôt de manière globale, on va dire, sur le jeu. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que d'abord, c'est l'univers qui t'a fait revenir sur Assassin's Creed? Moi, c'est le cas.
Oui.
Voilà, c'est l'univers qui m'a fait revenir. Alors, c'est l'univers. La mode du looting, on va pas se mytho. C'est grave la mode, donc ils ont pointé au bon moment. Mais l'univers m'a attiré. Et j'avais cette impression d'avoir un petit retour aussi au côté assassin, ce qui n'était pas le cas dans les précédents épisodes. Là, je trouve qu'on remet un peu le côté assassin en avant, et ça, j'aime. Moi, j'aime bien le côté. Alors, Stomy me connaît, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui commence à me connaître aussi. Je suis très discret dans certains jeux.
Rambo.
Dès que ça part en couille, il faut pas me faire chier. Je tape dans tout ce qui bouge. Donc en fait, j'aime beaucoup les jeux où il faut être discret. Bah, par exemple, Spider-Man, Miles Morales, c'est le même délire. Tu peux être très discret. Mais effectivement, quand tu te fais choper, il y a plus qu'une méthode, quoi. C'est tu fous le bordel. Et c'est un peu le même délire dans Assassin's Creed aussi. Voilà, c'est que tu peux te la jouer un maximum discret, mais souvent ça part en couille quand même. Parce qu'en plus dans Valhalla, t'as aussi ce système d'équipe qui te permet aussi de combattre pour acquérir par exemple une forteresse. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises.
C'est ça. En fait, t'as plusieurs, mais il y a plusieurs méthodes. Alors justement, le côté assassin, il est présent sans être présent. Quand toi, tu parles du côté assassin, toi, tu vas parler du côté discrétion. Donc ça, c'est 100% présent. Tu peux faire à 100% discret, et c'est vraiment possible de faire discret, même si c'est des fois très chaud. Tu peux faire des forts, des monastères, tu peux tout le faire en discret. C'est très compliqué, mais tu peux le faire. Moi, le côté assassin, c'est le scénario. Voilà, on est attiré du côté par des personnages vers le clan des assassins, les clans, comment ils disent ça, les clans de l'ombre ou des gens qui ne parlent pas. Je sais plus comment ils disent le nom exact. On le voit tellement peu pour finir que je me rappelle même pas du nom. Enfin bref, on a deux personnages qui viennent en Norvège qui sont des assassins, donc un maître et un esclave et un padawan qui est en train d'apprendre à devenir un assassin. Et on va être attiré là-dedans pour devenir nous-mêmes assassins et tuer justement les templiers. Mais j'ai trouvé ça très discret parce que là j'en suis à 40 heures de jeu. J'ai tué le premier gros méchant avant le boss final. Et sachant qu'il y en a 1, 2, 3, 5. Donc il m'en reste 4 à tuer.
Ouais, quand même, ouais.
Voilà, je suis à 40 heures de jeu. Alors. Il est possible aussi façon de jouer qui fait, parce que...
Ouais. Je pense que tu prends beaucoup de temps et que tu essaies d'explorer un maximum,
non,
de faire un maximum
ça.
De questions.
Non, c'est pas ça. Voir t'es nul, quoi. C'est un final. C'est pas ça non plus au final. C'est pas ma façon de jouer. C'est mes décisions qui font que... en fait, tu as une carte que tu parles avec une collègue viking et tu dois faire des partenariats. Un peu comme dans la série Viking où voilà, tu dois t'allier avec des rois, etc. Donc le but, c'est exactement ça. Et Si tu choisis certaines cartes et certains endroits comme la Merci ou compagnie, bah là tu vas peut-être débusquer plus rapidement des Templiers. Ce qui fait que moi j'ai choisi d'autres, j'ai vraiment choisi les plus faibles au départ, et du coup bah, je me suis fait pas plein d'alliés avant de commencer vraiment à tuer des Templiers. Et c'est pour ça que j'arrive vraiment dans, au bout de presque 40 heures de jeu, dans le côté assassin pur, où bah, je commence à tuer de plus en plus de Templiers et des gros boss. Mais ça m'a permis de découvrir un scénario et un univers prenant et où on met tout en place. Alors ça peut être un peu long, surtout pour toi, ça met tout en place, tout commence à s'assembler les uns les autres, et ça va finir par je ne sais quoi en bataille finale ou pas. Mais j'ai eu du mal mais j'ai trouvé ça un peu poussif au départ, même si moi je m'y attendais. Avec les jeux Ubi, c'est souvent ça, on sait qu'au début c'est très long, faut se mettre en place. Mais plus j'ai joué et plus j'ai été happé par le jeu. Donc c'est vrai qu'il faut s'accrocher entre, et encore s'accrocher, c'est pas non plus le difficile, mais faut vraiment se lancer dans le jeu. Et moi j'ai plus envie de lâcher la manette, j'ai vraiment envie de faire le jeu totalement, de connaître l'histoire totale, ce qui va arriver à Eivor à la fin ou pas, avec son frère adoptif. Enfin voilà, c'est l'univers qui fait que j'accroche totalement, et on ressent vraiment le côté viking chez les Anglais. Et puis buter des Anglais, pour moi c'est un bonheur, quoi. Moi depuis Jeanne d'Arc je peux plus les blairer. Alors tuer des Saxons, c'est un bonheur sans nom, quoi. Donc, moi c'est pas un coup de cœur, mais c'est un très très bon kiff Assassin's Creed, voilà.
Ok, je vais vous donner mon avis, qui est beaucoup plus tranché.
C'est de la merde, voilà, merci, au revoir.
C'est de la merde. Non, alors, c'est vrai que c'est difficile à décrire, parce que j'ai trouvé l'introduction hyper longue et hyper chiante. Au début, vous êtes en Norvège, puis bon, c'est pas un spoil, vous allez partir en Angleterre. Le côté, quand vous êtes en Norvège, c'est un peu une grosse intro à cet épisode. Mais j'ai trouvé ça chiant parce qu'en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est une info que j'ai eue hier et qui est super intéressante. Sur plus ou moins, en ligne droite, hein, je vous parle, sur plus ou moins 50 heures, 60 heures de jeu, vous avez entre 25 heures et 30 heures de cinématique.
Oui, c'est énorme, ça.
C'est juste énorme. C'est l'un des jeux qui propose le plus de cinématiques. Alors, si vous rappelez de Death Stranding, qui proposait déjà énormément de cinématiques et qui était critiqué de ce côté-là, là, c'est beaucoup plus de cinématiques, c'est limite deux fois plus. Moi, personnellement, je trouve ça, mais d'un chiant comme pas possible. En plus de ça, les cinématiques ne sont pas très belles, on va pas se mentir. C'est pas hyper, hyper de qualité, quoi. Il y a des jeux dans lesquels t'as des cinématiques, putain, tu poses ta manette, tu la regardes, c'est un film, c'est beau, quoi. Tu vois, tu dis, waouh, c'est cool, c'est un film, c'est bien. Là, c'est pas le cas, c'est pas hyper de qualité. Le jeu possède toujours les mêmes défauts, on en a parlé. Les cheveux, pour moi, c'est de la paille. Enfin, c'est pas très beau visuellement à voir. Je vais continuer mon épisode sur PlayStation 5 pour voir un peu si le rendu est meilleur. Je l'espère quand même. Il y a pour moi un peu trop de temps de chargement. On t'envoie comme d'habitude à l'autre bout de la carte, à pied, pour aller chercher une bête sauvage. Et quand tu reviens, on dit « Ah, c'est super, maintenant, va à l'autre côté chercher un poney doré. » Non, mais c'est bon, arrêtez de nous prendre pour des cons, quoi. J'ai trouvé que pendant à peu près les 2-3 premières heures, je me suis quasiment pas battu.
Moi, ouais, si je suis en Assassin's Creed...
En Norvège, putain, je me suis fait chier comme jamais, quoi. Quand je fais un Assassin's Creed, le but, c'est quand même de me battre et d'assassiner. Dans Assassin's Creed, t'as quand même assassin, quoi, tu vois. Je trouvais que ça manquait de fight. Et le problème, c'est qu'en plus de manquer de bagarre, parce que moi, j'adore la bagarre, tu te retrouves avec beaucoup de cinématiques. Donc, en fait, ça te crée une lenteur en plus de la lenteur. C'est ce que j'ai trouvé dommage. Alors, je suis d'accord avec toi, je suis quasiment sûr que si je joue 10 heures de plus, j'aurais pas le même avis et j'aurais une immersion bien plus intéressante. Mais là, je trouve que le début n'est pas du tout une bonne immersion au jeu. Et ça peut en rébuter quelques-uns. Je trouve ça vachement dommage pour un Assassin's Creed qui... Hop, c'était pas le cas, par exemple, pour Origin. Le dernier que j'ai fait, c'est Origin. J'ai eu l'impression, vraiment, t'y joues, boum, t'es dedans. Tu commences vraiment ta quête.
T'avais ragé Origin. Tu rageais, je me rappelle, à l'époque, tu disais « Ouais, 5 heures de jeu pour l'introduction, c'est abusé. »
Ah oui, c'est toujours sûr. Moi, je déteste les introductions hyper longues comme celle-ci. Surtout quand t'es un fan de la licence et que t'as l'habitude d'y jouer à la licence. Je suis pas sûr que Assassin's Creed obtient de nouveaux joueurs d'année en année. Si, c'est le cas, mais c'est très peu. Je pense que t'as une énorme fanbase de base sur lesquelles t'as des milliers de joueurs qui sont fans de ce jeu. Qui jouent chaque année, et donc du coup ils connaissent, et je pense que pour tout le monde, ou presque, parce que t'as les fanboys comme d'habitude qui vont dire que le jeu est parfait, c'est pas le cas, mais pour beaucoup de monde, je pense que beaucoup de monde vont critiquer justement cette introduction qui est pour moi un peu trop longue. Après, au niveau du gameplay et tout, on se retrouve dans quelque chose de très... Voilà, c'est pas très nouveau, quoi. D'un
Il n'y a
Assassin's
aucune
à l'autre,
nouveauté niveau
il n'y a
gameplay.
aucune nouveauté au niveau du gameplay. T'as le côté RPG qui est un peu plus pensé, un peu mieux pensé aussi, par
Ah
rapport à
ouais,
Odyssey, d'après ce que
là
j'ai
il est
compris.
vraiment,
Dans
il
le
est vraiment
sens où,
bien, il est
quand
vraiment
tu
bien,
tues
mais tu
quelqu'un,
peux
enfin, quand tu veux
ignorer.
one shot, tu peux one shot. Et ça, c'est important. Pour
Et
moi, c'est très important.
tu peux ignorer le côté RPG, parce que moi, voilà, j'arrive à 40 heures de jeu, tu peux avoir des armes mythiques et compagnie, j'en ai aucune, parce que je ne fais pas les missions secondaires pour pouvoir les avoir, mais ça m'empêche pas de progresser dans le jeu normalement.
Parce
Donc le
qu'après,
côté RPG,
tu
soit tu
montes
te
en
mets
niveau et tu
dedans,
montes en force quand même, je pense, c'est ça?
oui, tu montes en force, c'est tout, parce qu'avec les points de compétence, mais les armes, t'es pas obligé de monter vraiment les armes en puissance pour pouvoir tuer les ennemis. C'est vraiment,
Et parce que
pour ça, c'est
justement,
bien.
c'est ce qu'on disait, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que si tu veux one-shot quelqu'un, tu peux le one-shot.
C'est ça.
T'es pas face à quelqu'un sur lequel tu dois mettre 10 flèches dans sa gueule pour qu'il commence à avoir le tournis, quoi, tu vois?
Ben, c'est ce qu'il y avait
Non,
dans le
là.
problème dans Odyssée. C'était le
Ouais,
gros problème
et je
d'Odyssée.
pense que c'est clairement pour ça que j'ai pas lancé le jeu. Parce que c'est à force d'entendre ce genre d'avis que je me suis dit, mais ça va me saouler.
Ah
Me
bah
connaissant, moi
Baldur's Gate,
j'aime
je le
bien
disais
avoir
toutes les 5
le.
minutes.
Ouais, ça m'étonne même pas. Donc voilà, ok, merci pour ton avis. C'est pas. Je pense que il faut passer outre les 5-10 premières heures
Oui, c'est
pour
ça.
avoir
Mais,
un avis définitif sur le jeu.
et d'ailleurs, j'avais reçu un mail d'Ubisoft Belgique par rapport à Montes qui disait est-ce que tu as vraiment assez joué au jeu pour ton retour, etc. etc. parce qu'il trouvait que j'étais un peu trop peut-être cassant sur le jeu. Mais non, j'ai complètement bien joué et moi, je trouve que mon test était juste de toute façon. Et même aujourd'hui, même si peut-être je rajouterais un point sur la note finale, je crois que j'avais mis 14 ou 15, voilà, je mettrais 15 ou 16 aujourd'hui, mais pas plus non plus parce que les bugs restent toujours les mêmes malgré les correctifs qui vont arriver rapidement. Sur un jeu Ubi, au bout de 10 corrections, là il est nickel, mais il faut
Ouais,
attendre un an
et
pour
c'est
avoir
un
un
peu,
truc nickel, c'est un
et
peu
ça
le
c'est un peu
problème.
triste aussi, on va pas se mentir. J'aime beaucoup Ubisoft parce que ça à la base c'est quand même une boîte française et moi je suis très chauvin. Mais les jeux Ubisoft de manière générale, à chaque fois que ça sort, c'est une catastrophe. Le nombre de bugs comme tu dis que tu peux avoir, enfin tu vois, ton jeu a crashé 4 fois la console, bah c'est pas normal. Désolé, mais c'est pas normal. Moi je vais pas vous mentir là, j'ai lancé Assassin's Creed il y a à peine 1 heure sur PlayStation 5, ça a crashé ma PlayStation 5.
Non,
Je suis
mais
à
toi,
deux
ça
doigts de
n'arrive
prendre le
pas.
jeu et le jeter quelque part, quoi, tu vois, donc.
Ça a même éteint la console.
Ah ouais, ça a éteint ma console directement, donc je suis moyen chaud, quoi, tu vois, à ce niveau-là, relancer des jeux sur lesquels t'as des risques possibles de foirer ta console ou quoi, bon, ça fait un peu chier, quoi, on va pas se mentir.
C'est dans la continuité de mon test écrit. Donc, si Ubi Belgique, tu m'écoutes, voilà, je change pas mon avis sur tout ce que j'ai écrit. Sauf que, effectivement, c'est un grand univers, c'est un très bon univers, ça a été très bien créé. Mais vous avez plus créé un nouvel univers que créé un nouveau jeu, pour moi. Ça
Et de toute
reste.
façon, c'est malheureusement la conclusion qu'on peut donner à chaque Assassin's Creed. Après, c'est compliqué de se renouveler à
Comme
chaque
Far
fois.
Cry.
Voilà, mais c'est très compliqué de se renouveler à chaque fois, on va pas se mentir, ou rechanger. Et puis si tu changes tout, on va dire ouais, mais c'est pas la base d'un Assassin's Creed, ça va pas, nanana. Alors il faut apporter, je pense, un minimum de nouveautés. C'était le cas par exemple avec Origin et le mode un peu style RPG. Donc c'était une belle nouveauté bien avancée. Est-ce que c'est facile d'en avancer des aussi importantes et des aussi intéressantes chaque année? Je ne pense pas. Mais il faudrait peut-être voilà, le faire évoluer positivement chaque année. Et surtout, moi, ce que je reproche parfois à Assassin's Creed, c'est d'avoir des qualités dans certains jeux et de ne pas reprendre ces qualités. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit visuellement, graphiquement ou au niveau du gameplay. C'est des choses que je trouve qui sont pas logiques. Alors, effectivement, il faut savoir que les Assassin's Creed sont quasiment développés en même temps. C'est-à-dire que par exemple là on était sur Valhalla, ils sont en train de déjà développer le prochain, ce qui est logique. Et limite sont déjà en train de commencer à développer le prochain du prochain. Parce que si tu veux sortir un jeu par an, ton jeu ne se fait pas en une année. Il se fait souvent en 2, 3, voire peut-être plus dans
Sauf que là,
certains
ils ont
des
mis
jeux.
2 ans pour le faire celui-là. Ils ont attendu justement parce que Odyssey a eu quand même des mauvais retours dans son
Ouais,
ensemble.
mais c'est pour ça que je te dis, ils ont. Alors tu peux plus ou moins corriger, mais je pense que si t'as déjà une grosse base qui est faite, et que si tu veux sortir ton jeu en temps et en heure, parce que bah t'as des actionnaires qui sont là pour avoir leur argent, bah tu. Des fois, tant pis quoi, tu vois ce que je veux dire?
C'est
Tu peux
ça.
pas tout modifier quoi. Ok, c'est cool, je pense qu'on a déjà fait assez long sur Assassin's Creed, waouh, on a une vingtaine de minutes. J'espère que vous avez apprécié ce petit débat. On a chacun son petit avis sur la licence et sur le jeu.
Et
On va
encore, on est
continuer.
encore plus rageux sur WhatsApp en privé, hein, je vous
Ah,
rassure.
totalement, totalement. On va continuer avec mes premières impressions sur la PlayStation 5. Alors, je le redis, j'ai eu la chance de la recevoir par PlayStation France, donc merci, merci beaucoup. C'est une console de toute façon que j'avais précommandée, donc en fait, on va pas se mentir, quoi qu'il arrive, elle était à la maison à un moment ou à un autre, parce que j'aime l'univers PlayStation de manière générale. Je suis pas un fanboy, loin de là. La preuve, j'étais chaud pour acheter la Xbox Series X. et pas uniquement pour parler des jeux vidéo sur le blog, parce qu'il y a des très belles licences chez Xbox qui m'ont toujours attiré, type Forza et Gears. Forza surtout Horizon. Moi, je suis très arcade plutôt que simulation. Et d'autres licences, hein, j'en oublie. Il y en a Ori, par exemple, j'aime beaucoup. Enfin bref, je vais pas vous faire la petite liste. J'ai pas réfléchi à ça. Mais sur la PlayStation 5, que dire ? Tout d'abord, c'est une belle bête. C'est-à-dire qu'elle est quand même assez imposante. Je crois que de mémoire, elle doit faire plus ou moins 40 cm de hauteur.
Ah ouais, c'est la taille de Volt XS, quoi.
Ah, on est à 2 Volt XS, quoi, tu vois. Tu mets 2 PlayStation, t'as Volt XS en face de toi. Non, c'est quand même, ça reste quand même une très belle bête. Alors, j'ai eu la version avec le lecteur Blu-ray. Ce qui est pour moi un plus, parce que j'aime bien le côté matérialisé, donc j'aime bien les beaux boîtes. Mais automatiquement, au niveau du design, ça la perturbe un peu, quoi. Si t'enlèves le lecteur, automatiquement, c'est synchro d'un côté comme de l'autre. Mais c'est pas forcément dérangeant. Alors, vous pouvez mettre la console de manière horizontale ou verticale. Il y a un socle qui est fourni avec. Dans le pack de la console, vous avez aussi la manette DualSense, qui est la nouvelle manette, la nouvelle DualShock, de PlayStation. J'étais pas fan de son design à la base. Ce côté bicolore, etc. Puis la couleur blanche, moi, je suis pas très fan. J'aime bien les consoles noires. Au final, on s'adapte très rapidement, que ce soit pour la manette et pour la console. La manette semble vraiment de qualité par rapport à la précédente génération, et surtout elle apporte un lot de nouveautés vraiment impressionnant, surtout au niveau des vibrations. Il y a une tonne de vibrations, j'ai l'impression d'avoir, tu sais, les Joy-Con dans la main. Ah, tu sais, il y avait un jeu comme ça où il te montrait un peu les vibrations, et là je trouve c'est le même délire. T'as un nombre de vibrations vraiment important. Alors, est-ce que les développeurs, est-ce que les éditeurs vont utiliser ce petit plus dans les jeux? Je l'espère. Parce que par exemple, je sais pas si tu te souviens, mais le pavé tactile qui est aussi utilisé sur la manette DualSense ou sur la DualShock de la précédente génération, il était quand même pas hyper utilisé, quoi.
Non, c'était rare qu'il ait été utilisé. C'était bien dommage que le peu de fois où il a été utilisé, c'était vraiment.
C'était bien pour ça, du coup. Ouais, mais c'était bien pour ça. Alors souvent c'était des jeux PlayStation, mais s'il y en a eu 5 ou 10 au maximum, voilà quoi. 5 ou 10 en 7 ans, c'est quand même pas foufou, quoi. La manette, elle a aussi surtout, ce qui est vraiment le gros point fort pour moi, c'est les gâchettes, donc L2, R2, qui sont adaptatifs. Donc en fait, t'as différents niveaux de puissance, on va dire. Tu sais, quand t'appuies, tu sens vraiment les différents crans, ce qui peut être super intéressant sur certains jeux. Et tu peux avoir un genre de retour de force, quoi. Donc genre quand tu roules, par exemple, tu sens vraiment si ton pneu est dans la terre, ça va vibrer au niveau de ta gâchette droite, quoi.
Ah ouais, c'est intéressant ça.
Ouais, franchement, ça te met une très très bonne immersion. Bon, toi, t'as toujours pareil, hein, t'as toujours du son qui peut être ajouté aussi dans la manette. T'as aussi la possibilité d'avoir un micro directement dans la manette. Donc, si tu veux parler ou si tu veux souffler, par exemple, dans certains jeux, tu vas pouvoir souffler pour avancer certaines choses. Voilà, t'as tout un lot de nouveautés. Je trouve le design hyper joli au final de cette manette. J'aime beaucoup les touches, j'aime beaucoup le revêtement. Enfin, franchement, la prise en main est très bonne. La console, c'est pareil, hein, même délire, même topo. J'aime beaucoup le design au final. Je la trouve imposante, ça on va pas se mentir, elle est imposante. Mais voilà, c'est pas. On s'y fait, quoi. Tu vois, quand t'as l'habitude d'avoir une tour de PC chez toi, en fait, dans le salon, je pense que ça peut passer entre certains meubles aussi. Moi, je la mettrai pas dans un meuble, comme d'habitude, je vous conseille pas de mettre une console dans un meuble fermé, sauf s'il est bien aéré, et de coller votre console surtout au mur, parce qu'il faut laisser un espace d'aération, surtout, c'est là que ça chauffe, et c'est là que ça peut être dangereux. En soi, je trouve la console très silencieuse. Quand elle est allumée, franchement, limite, je ne l'entends pas vraiment. Quand je lance un jeu, non plus. Le seul moment où je vais entendre de la console un peu s'exciter, c'est surtout quand le lecteur Blu-ray est utilisé, ce qui peut paraître un peu logique. Tu as le bruit du lecteur, quoi, du CD qui tourne. Tu as une nouvelle interface sur la PlayStation 5. Alors, vous avez peut-être dû la voir dans mes lives aussi sur Instagram ou sur Twitter. Il y a une nouvelle interface, il faut s'y habituer. Franchement, j'ai eu du mal à m'y habituer. Par exemple, il y a des choses qui ont un peu, pas vraiment disparu, mais qui ont bougé d'endroit. Les trophées, vous allez retrouver ça sous votre profil. C'est divisé plus en deux catégories, une catégorie jeu et une catégorie multimédia. Dans la catégorie multimédia, vous allez avoir les applications type Netflix, OCS, Disney+, etc., qui sont préinstallées, que vous pouvez supprimer ou non. Et dans la partie jeu, vous retrouvez votre liste de jeux avec le PlayStation Store, le PlayStation Plus, et votre profil de joueur. Que dire de plus au niveau des nouveautés? Alors, bon, bien sûr, elle est beaucoup plus puissante, hein, et tu le sens tout de suite, le SSD, la RAM, tous les composants font que ça tourne vraiment beaucoup beaucoup mieux, et tu le sens surtout quand tu lances un jeu ou que tu quittes un jeu, tu vois. Ouais. En gros, par exemple, tu peux basculer d'un jeu à un autre vraiment en une demi-seconde, quoi. C'est d'une fluidité incroyable. Typiquement, par exemple, moi j'ai lancé FIFA 21 sur PS4 et sur PS5, tu vois aussi totalement la différence dans les menus. Alors si vous êtes joueur de FIFA, vous allez rapidement comprendre, quand vous êtes dans FUT et que vous basculez d'une carte à l'autre, vous avez une sorte de latence hyper chiante, surtout quand vous le faites avec votre joystick. Et là, vous n'avez plus du tout cette latence. Donc on voit que la console, quand même, utilise bien cette performance, quoi. Et t'as plein de trucs, voilà. Enfin, vous allez le sentir au fur et à mesure, hein, quand vous allez jouer, quand vous allez naviguer dans la PlayStation, il n'y a plus aucun ralentissement, ça va hyper vite, ça s'installe hyper vite. Et ça, c'est hyper plaisant aussi. Que dire de plus, vous pouvez bien sûr jouer à vos jeux PlayStation 4 sur PlayStation 5. Certains ont des problèmes de sauvegarde pour l'instant. Ça va, je pense, se corriger au fur et à mesure du temps. Alors, j'en ai eu un sur Dirt 5, mais par exemple, sur Assassin's Creed, j'ai pas eu le problème. Pourtant, j'ai commencé mon jeu sur PlayStation 4. J'ai installé le jeu PlayStation 5 qui est du coup offert quand vous avez acheté le jeu sur PlayStation 4 sur la PlayStation 5 et j'ai récupéré ma sauvegarde automatiquement. J'ai pas eu de galère en soi, donc ça dépend vraiment typiquement des jeux. Petit point positif aussi que j'ai trouvé, c'est que j'avais installé des jeux sur un disque dur externe sur PlayStation 4. J'ai branché ce disque dur externe sur ma PlayStation 5 et les jeux sont installés et je peux directement y jouer.
Oh, c'est
Il
n'y
a
cool,
pas
ça.
De galère ni rien. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est vraiment un point positif. Le point, pour moi, le seul gros point négatif que je vois pour l'instant, en tout cas, je le verrai au fur et à mesure du temps, mais là, à première vue, après quasiment une petite semaine de test, le seul point négatif, c'est le stockage. On part avec 825 Go de base. Bien sûr, comme dans tout, quand vous achetez un truc, comme vous achetez un disque dur d'1 Tera, vous n'avez jamais 1 Tera. Vous avez, je sais pas, 900 quelque chose. Un petit 900. Un moyen 900, on va dire. Là, on a 825, on se retrouve avec 600 et quelques. 600, 630, je crois, de mémoire. Pourquoi? Parce que déjà 825 ça fait jamais 825 et de deux il y a l'installation de l'OS et de quelques logiciels préconfigurés etc. Donc ça bouffe déjà une petite place. Donc on se retrouve avec plus ou moins 630 Go de disponible en sachant que certains jeux pèsent une tonne. Là j'ai téléchargé le nouveau Call of Duty, il fait plus de 150 Go, donc ça fait limite un quart de ton espace disponible. Donc ça voudrait dire que si tu installes 4 jeux comme Call of Duty, t'as plus de place.
Ouais.
Donc ça va poser rapidement problème. Alors il y a des solutions, il y a la possibilité d'installer un nouveau SSD compatible PlayStation 5. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. On a vu dans certaines vidéos dispatchées par PlayStation que c'était assez facile d'installer, un peu comme à l'époque sur PlayStation 4 où tu changeais de SSD ou de disque dur. Donc ça va être assez facile à installer, donc ça c'est cool. Par contre, je pense qu'au lancement de cette compatibilité de SSD sur PlayStation, le prix va piquer, il va falloir peut-être attendre un petit peu. Et après, je pense que dans le futur, il y aura aussi la possibilité d'installer des jeux PlayStation 5 sur des disques durs externes. Pour l'instant, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ce n'est pas le cas. Tu peux uniquement installer des jeux PlayStation 4 sur des disques durs externes qui sont compatibles PlayStation 5.
Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors, il y aura une PS5 Pro avec 2 Téo.
Alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est sûr et certain que dans un an maximum, on aura des PlayStation 5 avec au minima 1 Tera. Et au mieux, 2 Tera. Mais du coup, le prix va aussi augmenter. On va pas se mentir que là, actuellement, ils utilisent des technologies de dernier cri et du coup, qui coûtent excessivement cher. Voilà pourquoi aussi, je pense, ils ont fait du 825 Go. Je pense qu'ils ont fait ça du 825 Go pour s'aligner au niveau du prix de la Xbox. En gros, pour moi, ils étaient partis sur du 1 Tera. Sauf que financièrement, c'était un peu tendu de faire du 1 Tera. Ils ont préféré faire du 825 Go. Tu vois ce que je veux dire ? La seule possibilité d'économiser facilement des thunes pour Sony, c'était de diminuer le disque dur sans trop manger. Si tu faisais du 500 Go, franchement, tu te faisais défoncer, quoi. Ça, c'était clair et net. Donc, ils ont fait du 825. Déjà, du 825, c'est pas une capacité qu'on a l'habitude de voir. Souvent, c'est du 500 ou du 1 Tera, quoi. Tu vois, t'as pas du pseudo entre deux comme là. Donc, je pense que c'était un peu leur stratégie de faire au même prix que les Xbox, mais du coup, diminuer un peu la capacité. Alors, c'est dommage. C'est pas non plus mortel parce qu'effectivement vous jouez rarement à 8 jeux à la fois. Donc si vraiment vous pouvez supprimer les jeux au fur et à mesure, c'est chiant. Ça c'est clair et net. On va pas se mentir, c'est chiant. Là j'en ai pas eu l'occasion et pourtant j'ai quand même pas mal de jeux qui sont installés. J'ai eu Devil May Cry 5, j'ai eu Astro Playroom qui est installé directement dans la console. Et je vais vous en parler tout de suite après. J'ai eu Spider-Man Miles Morales, j'ai Dirt 5 qui est installé, j'ai FIFA 21, j'ai Call of Duty, j'ai Assassin's Creed. Donc tu vois, il y a quand même... J'ai quand même déjà mis pas mal de jeux, quoi, je veux dire, sur la console. Et j'ai Rocket League. C'est la base.
Après,
la base
ça reste les premiers jeux qui sont pas optimisés. Enfin, pas qui sont pas optimisés, mais c'est pas des gros, 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 gros jeux encore. Je demande à voir God of War quand il va arriver au mois de janvier, quoi. La taille.
Ouais, un nouveau God of War, mais je pense qu'on sera rarement au-dessus de 150, parce que déjà, je comprends déjà difficilement comment c'est possible d'avoir un Call of Duty qui fait 150, quand t'as un
Voilà.
God of War, le précédent, qui doit faire 60, 70, quoi. Enfin, je dis au hasard les chiffres, tu vois, mais je suis
Voilà,
quasiment
mais
pas sûr que ça fasse du
à mon
150,
avis,
quoi.
les gros blockbusters hein, qui vont arriver, ce sera du 150 gigas
Après, je sais que
minimum.
Call of Duty, par exemple, sur Xbox, sur PlayStation, je crois que c'est un peu moins facile. Mais t'as la possibilité de supprimer certaines parties. Donc tu peux jouer que au mode campagne, que au mode multi, que au mode zombie. En fait, chaque partie pèse et ils ont fait en sorte de pouvoir supprimer certaines parties pour
Ouais, mais
pouvoir optimiser ta place, quoi.
je trouve pas ça je sais pas comment dire ça, je trouve pas ça facile de
Non,
devoir
pour monsieur tout le monde, non,
gérer
c'est clair.
sur. C'est pas confortable, voilà, c'est ça. Je trouve
C'est
qu'on
ça.
devrait pouvoir avoir le jeu complet. Et c'est bien de pouvoir supprimer les trucs qu'on veut pas, hein, effectivement. Voilà, mais je trouve qu'on devrait avoir large en 2020, on devrait avoir la place de pouvoir installer un jeu complet sans aucun problème sur une console. Et qu'on aurait dû avoir, comme sur certaines PS4 Pro ou même des PS4 Slim, 2 TO, point barre.
Ouais, mais
Un
2 Tera, je
SSD, je
pense
suis
que.
d'accord,
Ouais,
mais
c'est au niveau du prix, c'est
tu veux
compliqué de
taper
s'aligner à
fort.
2
Ouais, mais
Tera.
tu veux taper. C'est là où ils font le moins de bénéfices, les consoles, on le sait. Mais tu veux taper fort, tu proposes 2 TO, quoi, ça écrase tout, quoi.
Ah oui, non, mais c'est sûr que si tu veux frapper fort, tu tapais 2 Tera, t'étais bien. Mais si la concurrence ne l'a pas faite non plus, c'est qu'il y a une raison, quoi, je pense.
Bien sûr, oui,
Il y a une
tout à fait.
raison financière. Bon, c'est cool. En attendant, si vous avez des questions, bien sûr, c'est la PlayStation 5 avant sa sortie, ou pendant sa sortie, ou après sa sortie. N'hésitez pas, sur Twitter, Instagram, etc. Vous pouvez toujours me communiquer toutes celles-ci. Moi, j'ai répondu à pas mal de questions sur Insta ces derniers temps et c'est toujours avec plaisir. On va enchaîner du coup avec mon avis sur Astro Playroom. Donc, Astro Playroom, c'est le jeu qui est offert et qui est préinstallé sur vos consoles. En fait, c'est un petit jeu sur lequel j'avais aucune attente. Mais vraiment aucune attente. Je me suis dit, ouais, c'est le genre de jeu offert, souvent c'est pas terrible. C'est pour montrer les capacités de la manette, ça va être un peu chiant plus qu'autre chose. Et en vrai, au final, c'est un putain de coup de cœur ce jeu. J'ai vraiment surkiffé parce que, effectivement, ça te montre les capacités de ta manette. Donc, ça te montre vraiment tout ce qu'elle peut faire. Et c'est là qu'on voit que, niveau technologie, ils ont balancé pas mal de choses sur la DualSense et c'est cool. Et en plus de ça, on va jouer un petit robot, c'est un petit jeu de plateforme qui va nous emmener en fait dans les différentes parties de la console. Donc, ça, c'est marrant, on va voir, genre, je sais plus, la prairie de la RAM. Je sais plus quoi du CPU, tu vois, t'as quatre parties. C'est en quatre parties, en fait, chaque partie est un univers dédié à la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3 et la PlayStation 4. Et dans chaque partie, tu as des niveaux et des sous-niveaux dans lesquels tu peux récupérer des artefacts et comment ça s'appelle? Et des pièces de puzzle. Et en fait, tout ça va être réuni dans une grande pièce sur laquelle tu vas redécouvrir en fait tout l'univers de PlayStation. Et ça, c'est franchement. Pour les gens qui sont un minimum fans de la console et de la marque, vous allez surkiffer parce que vous allez entendre les sons originaux, vous allez retrouver plein d'images et plein de clins d'œil sur tout en fait. Vous allez vraiment tomber sur quasiment toutes les licences de PlayStation au travers des niveaux. Vous allez retrouver les petits robots Astro déguisés par exemple en Kratos, en personnage de Final Fantasy, en personnage de Uncharted et compagnie. Enfin, toutes les licences PlayStation sont vraiment mises en avant. C'est un petit jeu qui va pas vous prendre énormément de temps parce qu'en 4-5 heures il est terminé. Et je dirais même qu'en 4-5 heures il est platiné. C'est d'ailleurs mon premier platine sur PlayStation 5. Je suis pas très fan des platines et des trophées de manière générale, mais pour le coup j'ai tellement kiffé le jeu que je me suis dit pourquoi pas refaire quelques niveaux pour obtenir le platine au complet. Vous verrez, le gameplay est super sympa et franchement, je sais que souvent quand on achète la console, on achète souvent un gros jeu à côté pour y jouer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais si vous avez le temps et vous avez quelques petites heures à occuper, lancez Astro et vous verrez, c'est une très 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 belle surprise.
Astro
Tu
le petit robot.
Astro de quoi?
Astro le petit robot.
Exactement, Astro le petit robot. Et franchement, je te le conseille fortement parce que moi j'ai vraiment
T'as
kiffé
pas la
ce petit
référence
jeu.
en fait là. Avoue-le, t'as pas la
Si,
référence.
si, si, j'ai la
Avant.
référence, un truc manga, c'est voilà. Mais du coup, en plus, enfin, je pense qu'ils même ils disent un moment Astro le petit robot et compagnie, enfin, tu vois, il y a vraiment des clins d'œil dans tous les sens. Franchement, moi j'étais vraiment un pur kiff. En plus, surtout, je m'attendais vraiment spécialement à rien pour ce jeu. Tu vois,
Alors,
j'étais parti sur le fait de ouais, bon, c'est un jeu offert, on verra quoi.
c'est marrant que tu kiffes le jeu, parce que j'ai mon petit frère là, qui a commandé aussi la PS5, qui va le voir, qui est un gros gamer aussi. Et sur un post, j'ai vu sur Facebook où Sony demandait quel est votre premier jeu que vous allez faire. Et lui, le jeu qu'il a dit, c'est Astro, justement. il attend avec impatience de jouer à ce jeu-là, alors qu'il a plein d'autres jeux à côté. Hein. Je sais qu'il va jouer à Spider-Man comme un fou et compagnie, mais voilà, c'est le premier jeu auquel il veut absolument jouer. Donc il doit avoir une raison, et je comprends du coup ton kiff.
Non, franchement, moi, c'est vraiment une très, très, très belle surprise. Bah écoutez, je pense que le podcast est déjà assez long. On a parlé de que de jeux vidéo, mais la fois prochaine, on va être un peu plus ouvert à d'autres univers comme des séries, des mangas et des comics. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est toujours disponible. Et si vous souhaitez participer, comme c'était le cas pour notre précédent invité, Guillaume, bah n'hésitez pas aussi, hein, manifestez-vous, on peut s'organiser, on peut être disponible le week-end, le soir, le matin. Enfin, le matin, pas trop, en fait. Plus le week-end, le soir. merci, Stomy.
Bah,
ta présence, comme d'habitude.
Ah bah, toujours
et
présent.
On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.
Salut à tous.